Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet audio consacré au concept de la descente. Alors, ce concept de descente, donc de descente aux enfers ou dans les mondes souterrains, se retrouve dans de nombreuses légendes ou de nombreuses mythologies, comme par exemple celui de Perséphone que vous connaissez peut-être, Perséphone qui est kidnappée par Hadès, le roi des morts, et qui deviendra son époux, et avec lequel elle vivra la moitié de l'année. C'est un mythe très très connu. Mais il y a des mythes plus anciens, comme celui de la déesse, qui n'est pas kidnappée cette fois, et qui va descendre par curiosité, ou pour aller secourir un amant, ou pour consoler une sœur. On le voit donc dans de nombreuses quêtes du héros ou de l'héroïne, et on va se concentrer ici sur l'aspect féminin de cette quête. Alors, descendre. Transposer sur le plan de l'individu, qu'est-ce que ce concept de descente signifie pour soi? Eh bien, cela peut nous dire que nous sommes en train de faire un travail sur l'inconscient, dans l'inconscient, parce que l'inconscient est symbolisé justement par ces mondes souterrains. Et le fait que dans les mythes plus anciens, la déesse n'est pas kidnappée, qu'elle descend par elle-même, peut nous montrer que peut-être il y a longtemps, ce phénomène d'aller travailler sur l'inconscient se faisait tout naturellement par les femmes, et que plus tard, cela a cessé. Le travail de l'ombre, qui est totalement nécessaire pour évoluer, a dû passer par une phase où il était provoqué, puisqu'il n'était plus volontaire. On peut y voir une évolution conséquente, hein, finalement, où les femmes primitives, peut-être justement, allaient elles-mêmes vers leur propre initiation. Que c'était quelque chose qui était connu dans une société, dans une tribu, et qui était réalisé, par exemple, à tel âge, ou lors des premières règles, etc., etc. On peut encore voir hein, dans les sociétés primales des initiations, ça existe encore, mais nous, chez nous, dans nos sociétés plus contemporaines, en tout cas ici en Occident, eh bien, on ne fête plus ces grands moments initiatiques, comme je parlais justement des premières règles. Et la vie a dû provoquer l'intériorisation qui était faite de façon quasiment systématique, par curiosité, parce que c'était la voie des choses et que les femmes le savaient et le faisaient, eh bien, la vie a provoqué ce genre de choses. Et cela passe, du coup, par des choses très très concrètes, hein, comme un divorce, un deuil, une perte d'emploi, un accident, une maladie, etc., etc., etc. La vie va provoquer des événements qui vont nous mettre dans cette sensation d'intériorisation. Elle va un petit peu tellement nous choquer, nous traumatiser, qu'on va être amené à nous intérioriser pour supporter les choses. Et ce faisant, on va nous-mêmes descendre à l'intérieur de nous-mêmes, donc on est provoqué, et une fois qu'on a l'intérieur de nous-mêmes, eh bien on va faire ce qui doit être fait, et cela va dépendre bien naturellement de chacun, de chaque histoire. Donc c'est un peu comme si l'univers, la source, le grand mystère, ou la divinité, hein, peu importe le nom qu'on lui donne, eh ben, c'est comme si c'était un espèce de grand calculateur qui va coordonner les événements nécessaires à notre évolution, ce qui est un petit peu magique tout de même. Et le mythe, eh bien, on peut voir qu'il s'adapte lui aussi aux nécessités d'évolution de la société. Ce qui est finalement très 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 intéressant, donc l'ordinateur va calculer différemment, il va nous envoyer justement des choses dans nos vies parce que l'intériorisation, le travail avec l'inconscient est absolument nécessaire pour notre évolution, et puisqu'on ne va plus le chercher, eh bien on va nous l'envoyer. La psychologie des profondeurs, hein, qui travaille beaucoup avec les histoires mythologiques, il y a cette espèce de phase de recherche où justement les psychologues et tous ceux qui reste à analyser la symbolique, vont aller vers des histoires originales, donc des histoires plus anciennes, les plus anciennes possibles. Parce qu'on a pu voir que les histoires peuvent s'adapter, ce qui est très très intéressant pour nous, elles s'adaptent au cours du temps, mais lors de cette adaptation, elles peuvent aussi perdre certains détails, certains symboles de grande importance pour le sens de cette intériorisation, je vais y arriver, je vous promets, le sens de cette descente. Et le plus ancien mythe de descente d'une déesse dans les mondes souterrains est celui de la déesse Ishtar Inanna. Inanna et Ishtar sont considérés comme les noms d'une même déesse, mais d'époques différentes. La déesse Inanna est la plus ancienne, on la retrouve à l'époque sumérienne, et plus tard dans la même région, donc en Mésopotamie, on a Ishtar, qui est alors au temps assyrien et babylonien. Alors, ces déesses, ces deux déesses ou sept déesses, ont bien des formes, hein, comme toutes les déesses. On les voit, hein, elles n'ont pas qu'une seule, comment dire, elles n'ont pas qu'une seule forme, elles touchent à beaucoup beaucoup de choses. Eh bien, on voit la même chose ici, où ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle incarne, qu'elle va embrasser à la fois son ombre, mais qu'elle est aussi déesse de l'amour, très très vénusienne. Et on peut voir plutôt des déesses lunaires comme Artémis ou des déesses sombres qui sont sombres, qui travaillent justement dans l'inconscient, mais elles n'ont jamais ce côté relié à, eh bien, à l'amour, à ce côté vénusien fort. C'est une grande particularité d'Ishtar et Inanna. L'autre particularité, c'est que chez ces deux déesses, chez ces deux histoires, on retrouve toujours une descente aux enfers. Ishtar, elle descend pour retrouver son amant, Tammuz, et Inanna, elle va descendre pour voir sa sœur qui est en deuil. Dans les deux cas, la sœur de la déesse est Ereshkigal et elle règne sur ce monde souterrain. Donc là, on a effectivement, ce pendant de lumière avec Ishtar Inanna qui est reine de la lumière qui règne sur Terre et Ereshkigal, la sœur d'ombre qui règne elle sur eh bien, l'inconscient. Donc une partie qui est régnante dans le domaine de l'inconscient et l'autre dans le domaine de l'inconscient. Et dans les deux cas, lors de cette descente, la déesse va passer sept portes ou sept portails où elle devra se dévêtir soit de sept bijoux, de sept parures ou alors de sept voiles ou alors de sept robes. Alors, j'ai une préférence sur une de ces interprétations du fait qu'elle doit se dévêtir. Et cette interprétation veut que cela signifie qu'on ne peut pas se présenter au centre de l'inconscient, totalement pleine d'atours, et on ne peut y aller que finalement dépouillé, nu, authentique, sans masque. Dans la version d'Inanna, on comprend bien finalement que la déesse qui débarque chez sa sœur qui est en deuil, donc une sœur qui souffre, eh bien il y a quand même quelque chose d'un peu déplacé, d'aller se présenter à elle avec tous les bijoux, des robes magnifiques, etc. Quand on va voir une personne qui souffre, on n'est pas là pour se vanter finalement avec tout notre orgueil et puis toutes nos richesses. Le monde souterrain, donc le domaine de l'inconscient, ne peut rien accepter d'autre que l'authenticité. Justement, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est vantardise, tout ce qui est exposition de ses richesses n'a pas de place là-bas. L'inconscient, lui, il ne veut traiter qu'avec l'authenticité. On ne peut pas s'y présenter du coup avec nos étiquettes ou nos masques. Et là, c'est très 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 intéressant pour nous parce que nous avons vu, hein, que les masques sont créés par l'ego pour nous protéger, pour cacher notre vulnérabilité à être à nouveau blessé, comme on l'a été sur les cinq blessures possibles de l'âme. Or, dans le domaine de la souffrance, de l'ombre, on doit retrouver notre vulnérabilité pour espérer renaître. C'est toute la morale finalement de cette légende, de ce mythe de la descente dans le domaine de la sœur Ereshkigal. Donc la déesse, à ce stade, est dépouillée, elle est vulnérable et elle arrive totalement nue, donc véritablement nue, chez sa sœur. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va l'accueillir à bras ouverts, etc., en lui disant « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je t'adore, merci d'être venue, etc. » Non, non, elle va la tuer. Elle la tue et elle va l'accrocher à son mur comme une pièce de boucherie toute pendouillante, etc. Alors, on peut être heurté de ceci, mais n'oublions pas que c'est un travail symbolique. On regarde au niveau du symbole ce que ça signifie. Et symboliquement, cela va correspondre à un temps mort. On peut penser par exemple à une pause sacrée, à un entre-deux. On peut le relier aussi à l'arcane 12 du tarot, qui est le pendu. C'est une pause, et durant cette pause, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on intègre à l'intérieur. On intègre les choses. Donc il s'est passé quelque chose lors de cette transformation, ou plutôt lors de ce dépouillement, et la transformation a lieu au moment où on est à l'arrêt, dans cette espèce d'entre-deux où il n'y a pas d'activité. Elle ne fait plus rien, elle est comme ça, en attente, et elle est totalement morte. Elle ne fait rien. Mais pourtant, elle fait énormément parce qu'à l'intérieur, elle se transforme, elle est réceptive. Ensuite, la déesse va être secourue par d'autres dieux, souvent des dieux mâles. Et là, c'est à nouveau le masculin sacré qui va s'en mêler. Donc après ce phénomène de transformation, d'intégration, réceptivité, il ne se passait rien. On va avoir cette phase active qui va émerger, qui va suivre pour permettre le retour à la lumière. Tout comme l'histoire de Perséphone, le monde souterrain n'est plus jamais oublié par la suite. C'est-à-dire que Perséphone, elle, va devoir y revenir tous les ans pour passer la moitié de l'année avec son mari. Et Ishtar Inanna, elle, va toujours devoir fournir une présence, une personne, quelqu'un, pour y tenir sa place. Parce que une fois qu'on a été là-bas, finalement, notre présence est enregistrée, il doit y avoir quelqu'un dans cette place. Pour moi, cela signifie qu'une fois qu'on a mis les pieds dans l'ombre, qu'on a mis les pieds dans le domaine de l'inconscient, eh bien, cela fait partie de nous. Ça fait partie de nous de toute façon, mais une fois qu'on s'est montré, eh bien, nous y avons comme une sorte d'accès périodique. Et c'est un petit peu une nécessité, comme une hygiène de vie qui consisterait à nettoyer tous les coins au-dessus des meubles, cette saleté qui peut être accumulée au fur et à mesure de notre vie de tous les jours. Et donc, fréquenter les enfers, c'est donc fréquenter notre inconscient, et on comprend par cette légende, ce mythe, que cela ne se fait pas qu'une fois. On n'y va pas une fois, on ne descend pas une fois, et après on est tranquille. Non, c'est quelque chose qu'il va falloir faire périodiquement dans notre vie. Ça ne va pas prendre les mêmes dimensions, parce que cette fois-ci on va peut-être y aller de façon consciente, et juste un petit peu aller voir cet inconscient, ce qu'il y a, les choses à transformer, les pauses sacrées à faire. Et c'est vrai que dans toute notre vie, les rêves vont nous accompagner, les rêves qui sont des portails vers l'inconscient qui essaye de nous dire des choses. Cet inconscient qui va nous donner des réponses, qui va souligner des comportements qui sont peut-être déplacés, etc., etc. De plus, et c'est là mon interprétation, donc c'est un avis très 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 personnel, mais je vois, comme beaucoup, un lien particulier entre les sept portes et les sept chakras, donc quand elle descend et quand elle remonte. Pour coller à ma théorie, j'utilise donc la version des sept bijoux, voire même de sept joyaux. Et à chaque portail, j'imagine que la déesse peut laisser un joyau. Un joyau que j'imagine, moi, sale ou alors coupant, quelque chose qui est vraiment pas exceptionnel, qui n'est plus un joyau comme une pierre précieuse, mais plutôt une pierre qui a été laissée de côté et puis maltraitée finalement. Après son initiation, après sa transformation et sa renaissance, La déesse, comme je vous l'ai dit, repasse par ces mêmes portes et elle récupère ses biens, tous ses biens, tout lui est redonné. Et dans mon interprétation des choses, j'imagine là aussi qu'elle retrouve des joyaux, mais que ces joyaux-là, même si c'est vraiment les siens à la base, eh bien, ils sont plus propres, ils sont plus polis, par exemple. Et donc, finalement, comme on va descendre plusieurs fois dans une vie, j'imagine qu'à chaque descente, les joyaux vont être encore plus polis, les blessures davantage soulagées, l'ombre de plus en plus illuminée, et donc notre karma plus purifié aussi, et nos masques moins présents. Donc c'est comme si la tâche de faire briller nos joyaux et de leur permettre de retrouver leur forme et leur unique éclat était l'incroyable tâche de notre existence finalement, comme si c'était le sens de la vie, peut-être. Ensuite, ces joyaux peuvent être intégrés dans notre couronne, le symbole de notre conscience qui a retrouvé toute sa souveraineté. Alors, on retrouve aussi un tel lien entre les chakras, le centre inconscient et l'ombre, dans une autre symbolique, qui est la symbolique du labyrinthe. En effet, un des labyrinthes les plus rencontrés sur les sites du néolithique, que ce soit en France ou en Angleterre par exemple, c'est un labyrinthe à 7 niveaux, à 7 chemins. Et si nous n'avons pas d'ordre dans lequel Ishtar et Inanna remet ses joyaux, c'est-à-dire que d'office, on va peut-être penser qu'elle va donner ses joyaux du haut en bas, donc du chakra racine jusqu'au chakra couronne, ou l'inverse peut-être, de haut en bas cette fois-ci, eh bien le labyrinthe, lui, va nous indiquer un chemin très précis. Pourquoi ? Parce que si vous regardez un labyrinthe, on peut se rendre compte qu'on rentre directement par le niveau 3, qui est donc le chakra solaire. On continue, ensuite tout d'un coup on va passer par le niveau 2, et puis ensuite le niveau 1, donc les chakras sacrés et racines. Ensuite, on continue dans les méandres du labyrinthe et on se retrouve au cinquième niveau, qui est le chakra gorge. Vous voyez, etc, etc, etc. Alors, pourquoi cet audio? Pourquoi vous dire tout ça, vous parler d'Inanna, vous parler d'Ishtar, etc. Eh bien, parce que vous allez voir que chaque blessure touche un ou deux chakras précis. La blessure de déni, par exemple, concerne le chakra de la gorge. La blessure d'abandon concerne les chakras racines et sacrés ensemble. Ainsi, il m'apparaissait qu'aller vers la guérison de nos blessures correspondait finalement à emprunter le labyrinthe, à aller jusqu'au centre et affronter nos peurs, notre ombre, ces blessures-là vers lesquelles l'ego nous coupe, il nous protège. Et bien là, on va aller les voir. Donc c'est quelque chose d'assez terrifiant. À la fois, ça peut être le phénomène de labyrinthe, mais ça peut être aussi ce phénomène de descente dans notre inconscient, comme d'aller aux enfers. Et là aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va être vulnérable. Donc, le nettoyage des blessures, c'est un travail de purification. Et là aussi, on a ce lien avec ces 7 joyaux, ces 7 chakras qui vont être purifiés lors de notre transformation. Et ce n'est qu'après ce travail de purification, de transformation, que la déesse Inanna Ishtar a pu regagner sa place dans la lumière, sur le trône, sur son trône, et donc elle a pu retrouver sa souveraineté totale et sa couronne. Donc le centre du labyrinthe, il a son monstre, le Minotaure. La descente, elle a son propre monstre, qui est Ereshkigal. Et ils font peur a priori, parce que du coup, ils créent des situations, ils provoquent à la fois notre entrée dans cette inconscience, mais en fait, comme je le dis, ce sont donc des provocateurs, des initiateurs. Et l'initiation, qu'elle soit choisie ou qu'elle soit provoquée par les aléas de la vie, eh bien, nous nous rendons compte qu'en entrant dans les domaines de l'inconscient, que nous sommes totalement ignorants dans ce domaine. C'est pas nous qui y régnons. du tout. Nous, on connaît bien le conscient. On connaît bien la vie, ce qu'il faut faire, organiser notre temps, etc. Et quand on commence à plonger, par exemple, dans l'interprétation des rêves, on n'y comprend rien du tout. On est totalement ignorant. Et c'est ce qui se passe aussi avec la déesse Ishtar Inanna, qui, avec tous ses bijoux, avec tout son faste, donc c'est quelqu'un qui est très vénusien, on l'a vu, va descendre, donc toute pimpante, etc. Et les lois qui sont celles de l'inconscient ne sont pas du tout les mêmes. Et elle a l'air un petit peu justement de ne pas comprendre. Bien sûr, elle s'y soumet parce que c'est le prix à payer pour aller jusqu'au bout. Elle pourrait faire, comme nous souvent, demi-tour dès que c'est un petit peu un défi, un challenge trop important. Donc au premier portail, elle pourrait dire « Ben non, je te donne pas mon bijou » et faire demi-tour et repartir. Mais c'est une déesse, donc elle va jusqu'au bout, elle nous montre ce que nous avons à faire. Et du coup, le fait d'être ignorant, ça va pas du tout plaire à notre ego. Parce que dans ces zones, lui aussi, il va perdre totalement pied. L'inconscient, il a son propre monde de fonctionnement qui est bien éloigné de celui de la raison. C'est quelque chose de très organique, de très symbolique, etc. Alors que l'ego, lui, c'est une énergie mentale, une intelligence très cartésienne. Et du coup, il n'est pas du tout à l'aise, donc il va vouloir repousser ce voyage initiatique. Et c'est pour ça, justement, peut-être qu'au fur et à mesure, la vie a dû s'en mêler et a dû provoquer ces descentes, que l'ego, qui a commencé à se raffermir, à prendre de plus en plus de place, a progressivement de plus en plus interdit. Mais la vie lâche pas prise. Elle continue, elle voit que l'ego, il se crispe, il n'a pas du tout envie, il a un petit peu peur de ça. Et ben c'est pas grave, il va se passer un truc, que de toute façon l'ego, il n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Et dans ce voyage initiatique, on va laisser aussi tous nos faux trésors, tous nos joyaux dénaturés derrière nous, pour retrouver notre vulnérabilité, mais aussi et surtout à la fin de la transformation, notre souveraineté véritable. Elle n'est plus basée sur quelque chose de faux, sur un ego. Elle est totale, elle est vraie, elle est juste. Et ça, cette transformation, ce voyage va nous apporter énormément de choses. On va apprendre à se connaître soi-même parce que l'inconscient fait partie de nous. Ça va nous donner de la sagesse et un autre point de vue. Et finalement, c'est comme un processus alchimique de transformation incroyable et aussi un processus de renaissance parce qu'on ne sera pas tout à fait le même. On aura appris tellement de choses. On aura purifié tellement de choses qu'on ne sera plus tout autant identique. Et c'est ce qui définit une initiation finalement. C'est qu'il y a un avant et un après au niveau de la personne. Et puis oui, pourquoi dire processus alchimique ? Parce que l'alchimiste, il cherche quoi ? Il va chercher dans la terre carbonisée, donc dans la phase noire, il va rechercher l'or. Par plein de processus et plein de phases, mais le but c'est de partir de l'humus de la terre, donc là aussi quelque chose de souterrain et d'inconscient, l'or, le métal royal de la souveraineté. On est véritablement dans des concordances symboliques, que ce soit au niveau de la descente, au niveau du labyrinthe ou encore au niveau de l'alchimie. Alchimie qui, je le rappelle, c'est vraiment une parenthèse en passant, est une science entre guillemets de la déesse, c'est une science féminine. Les plus anciens textes d'alchimie, de recettes alchimiques, sont accrochés aux légendes d'Isis. C'est Isis qui va chercher la science alchimiste auprès d'un ange. Donc nous, on a un petit peu l'idée médiévale de l'alchimiste, un homme qui va faire ses petites recettes dans son atelier, alors que véritablement au début, c'est quelque chose de très féminin. Et le labyrinthe aussi, parce que généralement on retrouve la forme du labyrinthe, ou en tout cas le signe du labyrinthe, que ce soit de 7 niveaux ou plus, systématiquement dans des lieux qui sont liés à la divinité, donc des lieux de néolithique, des temples donc de la déesse, ou alors par exemple aussi dans nos cathédrales un peu plus récentes, donc médiévales, des cathédrales qui s'appellent Notre-Dame. Voilà. Donc tout ça, c'est très très féminin. Et puis l'inconscient, il a justement ce penchant, cette nature féminine, hein, parce qu'elle est un peu chaotique, etc. Et elle est très reliée justement au féminin. Et on voit tout doucement que tout a un sens et que tout est relié. Alors forcément, moi je pense que le processus de guérison des blessures permet de se connaître véritablement intensément, d'acquérir une grande sagesse, mais aussi de retrouver notre souveraineté, comme je vous l'ai dit, notre couronne composée de nos joyaux polis et pas d'une fausse couronne égotique, comme on a sur nous la plupart du temps depuis qu'on est petit. On construit une couronne égotique tout au long de notre éducation et à un moment donné, c'est plus possible, il faut qu'on retrouve des joyaux propres, donc non souillés et dans leur nature originale. Et c'est pourquoi nous partirons de 5 blessures pour aller jusqu'à retrouver 7 joyaux, 7 joyaux éclatants, polis, magnifiques, des joyaux nature, des joyaux que nous allons donc polir et purifier, et donc qu'on va chouchouter hein, pendant cette transformation, en même temps finalement qu'on va faire tomber les masques. Donc rechercher la vulnérabilité, c'est polir ces joyaux-là, c'est faire véritablement un travail, un processus important. Pour moi, chaque blessure sera un portail, un niveau sur lequel eh bien, nous suivrons les pas de la grande déesse, Ishtar, Inanna, quel que soit son nom, et de prendre ces féminités d'Isis. Aux féminités du coup plus néolithiques avec les labyrinthes, de suivre leur enseignement pour retrouver eh ben, notre souveraineté réelle, notre conscience totale qui n'est plus influencée par notre ego et donc forcément de soulager les blessures comme si c'était véritablement un tout. Je vous remercie de votre attention pour d'avoir suivi ce déroulement. Et ben, je vous dis à très vite pour la suite de cet atelier. À bientôt!